ici, Jean Moulin, avec mon terrible tortel.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir! Il faudrait groupir! Qu'est-ce qu'il dit? Groupir!
Alors, quoi?
Et toc, remonte ton scribard, Lothar.
Mais si!
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de La Percée de l'Histoire. Pardon pour ce petit couac technique sur le générique, il y avait deux musiques qui se sont lancées en même temps, mais ça ne va pas empêcher notre bonne humeur et notre émission de continuer. Et autour de la table ce soir, nous avons le privilège de recevoir Théophile. Bonsoir Théophile.
Bonsoir.
Comment ça va-t-il?
Ça va.
Tout va bien?
Oui.
Bon,
oui.
Bah, tranquille. Et alors? Je vous demande ici un tonnerre d'applaudissements pour le retour de Simon. Bonjour Simon.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thomas. Bonsoir Thomas. Comment vas-tu Thomas?
Ça va et toi?
Ben ça va. Très heureux d'être de retour parmi vous. Ça fait longtemps, ça m'avait manqué d'être ici. Ça fait bizarre d'être de ce côté de la table.
Oui, parce que tu es donc du côté des invités.
Eh oui, par
et donc,
invité.
Je peux te censurer à tout moment.
Voilà, me faire couper le micro et je n'aurai rien à redire puisque je ne suis plus animateur.
Alors, donne-nous de tes nouvelles, comment vas-tu?
Très bien, je suis actuellement en formation, donc ça fait déjà depuis un moment puisque ça a démarré le 8 janvier. On est quoi? On est en avril, donc ça fait, je ne sais pas
le compter. Le 2 avril,
mais, voilà, 2 avril, donc quasiment...
4 mois.
Voilà, 4 mois, merci. Et ça se passe très très bien, on apprend plein de trucs. Sur l'animation, sur la radio en général, c'est vraiment trop cool, on rencontre plein de personnes, la promotion est très sympa, donc plein de gens d'univers différents et c'est super, et puis on apprend vraiment sur un peu tout ce qui est technique aussi, sur la réalisation, enfin vraiment tous les univers de la radio, donc c'est génial, et je suis de retour exceptionnellement au Mans là, puisque je dois faire un reportage, voilà, sur alors là j'ai choisi un sujet, mais en fait sur le au Mans, puisque j'ai une semaine pour le faire, c'est une semaine banalisée et j'enchaînerai la semaine prochaine sur un festival de musique où on sera aussi amené à faire une émission délocalisée sur place pour le festival Mythos, c'est à Rennes, voilà.
Donc à Rennes, et ça sera combien de temps ce festival?
Le festival, je sais pas, il dure je crois quelques jours, mais nous on a une émission sur place, c'est le vendredi. Et je crois qu'on assiste, on peut assister aussi à des concerts dans les soirées. Je crois que c'est il y a le jeudi, le vendredi, le samedi, dimanche, enfin je sais plus exactement. Et interviewer aussi des artistes, prendre un petit peu les avis aussi des spectateurs sur place, faire des micro trottoirs, voilà tout ce que j'aime dans la radio quoi.
Donc vraiment finalement un programme bien chargé quoi.
Ouais non franchement très chargé. Bah en fait c'est 6 mois intenses puisque ça dure 840 heures en 6 mois donc c'est beaucoup et mais c'est on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a beaucoup de taf mais c'est trop cool donc voilà. Voilà, je suis très heureux de faire cette formation et je la recommande à ceux qui veulent faire la radio.
Tant mieux, tout à fait. Eh bien, c'est super. On embrasse aussi Salouane.
Gros
qui
bisous,
ne sera
Salouane.
Pas présent ce soir parce que vous savez, c'est un homme très occupé entre ses voyages d'affaires et puis s'occuper de ses comptes en banque aux Bahamas. ça prend du temps.
Eh oui, blanchir l'argent.
Ben oui, donc du coup, il ne sera pas là ce soir, mais on pense fort à lui et aussi à Gauthier, évidemment, qui fait exactement la même activité.
Exactement, gros bisous.
Résultat. Tout de même, celui qui est toujours là, toujours présent quand la percée de l'histoire est là, c'est le journal historique, bien sûr, qui va commencer dès maintenant. Nous sommes le 2 avril. Et donc, messieurs, et je me tourne vers Théophile peut-être, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé le 2 avril? Et alors là, attention, parce que le Théophile, il est là, il se dit « Waouh, mais attendez, qu'est-ce qu'il me dit, tout ça, etc. » Mais bien sûr, le grand événement de journal historique...
Donc il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup aujourd'hui, donc ouais. Nous attendons tous avec impatience.
Je peux peut-être démarrer en disant que...
Oui, vas-y, bien sûr, évidemment.
En 999, bien sûr, il y a Gerbert d'Aurillac qui devient Sylvestre II. Et
carrément.
Oui, il est devenu pape sous le nom de Sylvestre II, grâce à la protection de son élève et ami, son grand ami, l'empereur Othon III. Voilà, ça c'est une petite info, c'est cadeau. Et puis en bien plus tard, 1513, le 2 avril toujours, il y a Ponce de Léon qui part à l'abordage en Floride, puisque le conquistador espagnol Juan Ponce de Léon aborde un rivage encore inconnu au nord des Antilles. Alors il s'agissait de la presqu'île qu'il a appelée d'ailleurs Florida. Et oui, Florida, on ne parle pas du chanteur. Bien sûr, on parle de la Floride. parce que, bah oui, en fait, pourquoi ? Parce que ça coïncidait avec la Pascua Florida, la Pâque Fleurie, qui était au même moment de la découverte. Voilà, c'est cadeau.
Truc
c'est une
dingue.
Petite anecdote. Est-ce que Théophile, tu en as ou toujours pas ? Parce que je peux continuer. En 1810, Marie-Louise et Napoléon sont unis devant Dieu. Et wow. Oui, c'est le 2 avril. C'était le lundi 2 avril, pour être exact. L'empereur Napoléon, il avait 40 ans, Napoléon Ier, à ce moment-là. Eh bien, il a épousé l'archiduchesse, les chaussettes de l'archiduchesse, bien sûr, d'Autriche, Marie-Louise, qui, elle, avait 18 ans. Hein, donc, 40 ans, 18 ans, voilà. Avis à... Enfin, non, je ne veux rien dire, mais voilà. C'est... On en pense ce qu'on en pense. Elle n'est autre que la fille de l'empereur d'Autriche, François Ier, et la petite nièce de la reine Marie-Antoinette, guillotinée. Et oui, ça vous rappelle des souvenirs. Voilà. Et donc, ces deux-là se sont mis ensemble le lundi 2 avril 1810.
32 ans de différence, quand même.
Quand même. Et puis, messieurs pour finir, dames. Messieurs, dames, pour finir, le 2 avril 1974, bien plus tard, c'est la mort du président Georges Pompidou, et oui, connu de tous et toutes. Dans la nuit du 2 avril, les radios francophones s'interrompent. Ça y est, c'est la fin. Georges Pompidou est mort. La maladie du président était connue, et oui, un petit peu partout, tout le monde le savait. Et voilà, et donc il a disparu ce 2 avril 1974.
Eh ben voilà, ben merci beaucoup Simon.
C'est cadeau.
Et donc, pour les naissances, nous avons aujourd'hui, le 2 avril, la naissance de Charlemagne, le 2 avril 742. Il est mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. Le 24 septembre 768, Charles Ier et son frère Carloman succèdent à leur père Pépin le Bref, à la tête du royaume des Francs, qui s'étend de part et d'autre du Rhin. À la mort de Carloman, 3 ans plus tard, Charles entame une ascension qui lui vaudra le surnom glorieux de Charlemagne, du latin Carolus Magnus, évidemment.
Bien sûr.
Charles le Grand, pour les intimes. Au terme de 46 années de règne, donc 44 à la guerre, mine de rien, il va étendre son royaume de l'Èbre, donc c'est-à-dire une rivière en Espagne, jusqu'à l'Elbe en Allemagne, avec le souci de restaurer un semblant d'État centré sur la résidence d'Aix-la-Chapelle, comme le voulait l'Empire romain. D'ailleurs, pour légitimer son pouvoir, Charlemagne s'est autoproclamé descendant direct des empereurs romains.
Rien que ça.
C'est quand même pas mal.
C'est plus simple.
Oui, comme ça, ça limite tout de suite les choses et on va plus vite. Nous avons aussi la naissance de deux personnes qui sont moins connues. Enfin, en tout cas, elles n'ont pas été empereurs elles-mêmes. En tout cas, on a Giacomo Casanova.
Giacomo,
qui est né le 2 avril 1725 à Venise et mort le 4 juin 1798 en République tchèque. Donc, Casanova a été emprisonné au plomb de Venise pour raison d'État. Il s'en est évadé le 31 octobre 1755 et a parcouru le monde en quête d'aventures amoureuses. L'auteur de « Licentieux mémoires » a inspiré le Don Juan de Mozart pour ne citer que lui. Et enfin, des naissances en vrac, par exemple Hans Christian Andersen ou encore Léon Gambetta, que nous connaissons très bien ici, député, notamment pendant la Troisième République, le grand Léon Gambetta, et enfin aussi Émile Zola, le grand romancier qui a notamment écrit Germinal, que je conseille à tous, une œuvre bien connue mais formidable. Il fait notamment partie, cette œuvre-là fait partie des romans enquête qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a un peu de fiction, mais aussi beaucoup de vérité sur ce qui se passe, notamment au XIXe siècle en France. Et d'ailleurs, très belle adaptation en film par Gérard Depardieu.
Bien sûr.
Qui l'est un peu moins, parce qu'avec les rénovations qu'il y a
en
eu
ce moment,
quelques mois...
c'est plus trop à la mode,
bon,
on va pas se mentir.
Mais en tout cas, le film est bien. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. En tout cas, ce film existe.
Et enfin,
pour terminer, Clément Ader, qui est donc né le 2 avril 1841 et mort le 3 mars 1925. Théophile, est-ce que tu veux nous annoncer les décès de ce jour-ci ?
Alors, je n'ai toujours pas.
Bah, décidément, Théophile, ouais, il est ouais, parti là. Il est...
Moi, j'étais sur des nouvelles découvertes d'un point de vue archéologique. Mais,
ah, mais peut, c'est juste après.
Ah,
bah, c'est
oui,
juste après, sûr. Juste après le fait de dire que dans les décès, c'était bien ça.
Oui.
Que Honoré de Mirabeau s'est malheureusement décédé à ce moment-là, puisqu'il a été, je ne sais plus. Non, il est juste.
Mirabeau, grand député
oui,
de
si.
La Révolution,
bah, oui,
bien sûr.
Suis-je bête, bien sûr.
Mirabeau.
Mirabeau et puis Pompidou, on l'a dit tout à l'heure, hein,
ben, bien sûr.
qui était décédé à ce moment-là. Et puis évidemment aussi, très connu, Jean-Paul II,
et
de
oui.
son vrai prénom et nom d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, Karol Wojtyla, à peu près,
Wojtyla,
bon bref,
polonais,
qui était exactement
oui.
polonais, exactement, tout à fait. Et donc voilà, trois personnes décédées en ce 2 avril toujours.
Et figure-toi qu'on fêtera les 20 ans de sa mort l'année prochaine, le 2 avril 2025, truc de dingue.
C'est une bonne info.
Pour terminer ce petit journal historique, nous avons, non pas un, mais deux saints du jour.
Oh mon Dieu !
Alors là, c'est un truc de dingue.
Qu'à te le dire.
Nous avons d'abord la Sainte Sandrine.
Ah, bonne fête à toutes les Sandrines.
Bonne fête Sandrine. Alexandrine, encore appelée Sandrine, fondera un couvent de Clarisse en Ombrie, dans la région de Pérouse, en Italie, au
la
15e
Pérouse.
Siècle. L'ordre des Clarisses tire son nom de sa fondatrice, Sainte Claire, évidemment. Disciple de saint François d'Assise. Mais c'est aussi la fête de François de Paul, né en 416 dans une humble famille du village de Paola, dans le duché de Calabre. François se fait ermite dès 14 ans, mine de rien. Revenu à la société, il fonde un monastère à Plessis-les-Tours. Sa réputation de piété et ses dons de guérisseur lui valent d'être appelé au chevet du roi Louis XI, en 1483. Saint François de Paul meurt lui-même dans son monastère en 1507. Donc finalement, une mort assez commode pour un saint. Il n'a pas été lapidé, lui, sur place.
Ah bah ça va.
Et alors, Théophile, qu'as-tu à nous dire? Quelles sont les nouvelles du jour?
Breaking news!
J'en ai trois. À Vannes, le château de l'Hermine refait surface dans le Morbihan. Une équipe de l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive, missionnée par la ville de Vannes, vient de mettre au jour les vestiges du château de l'Hermine, construit par le duc de Bretagne, Jean IV, à partir des années 1380. Les recherches ont révélé le logis ducal et sa façade ornementée, différentes pièces ainsi que des espaces de circulation, dont plusieurs escaliers. L'ensemble permet d'esquisser un premier plan de cet édifice. Donc voilà, avis aux médiévistes. Nous avons également, j'ai vu aussi
une autre information capitale.
Attention, le suspense est entier. En Eure-et-Loire, mesdames et messieurs, pour celles et ceux qui sont en Eure-et-Loire.
Encore du médiéval, un habitat et son réseau souterrain du 1er Moyen-Âge à Distrée a été découvert. Donc toujours pareil, une équipe de l'INRAP a mené une fouille sur une surface de 2 hectares dans le secteur sud de la zone commerciale de Champs-Blanchard à Distrée. L'opération a livré de nombreux vestiges relevant de la sphère domestique et d'activités agro-pastorales datant de la fin du Haut Moyen-Âge, ainsi qu'un réseau souterrain. Voilà, voilà.
Merci. Merci beaucoup,
et
Théophile.
Et ça, c'est des infos récentes et locales.
Et oui, merci beaucoup. Et tout de suite, nous terminons ce journal historique avec une petite pause musicale. Bien évidemment, vous êtes habitués maintenant des pauses musicales dans cette émission. Et nous allons nous écouter Chase de Giorgio Moroder, une chanson que nous avons déjà passée, mais on ne s'en lasse pas. Écoutez, évidemment, pour ceux qui connaissent, c'est le thème principal de Midnight Express, bien évidemment. Nous écoutons ça immédiatement et c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans ou radioalpha.com et vous écoutez toujours La percée de l'histoire. Nous venons de nous écouter Chase de Giorgio Moroder qui, comme je le disais précédemment, est donc le thème principal du film Midnight Express, évidemment. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à aller le voir, bien entendu. Et donc, Théophile, écoutez, il nous a créé une chronique incroyable, puisque tu l'as intitulé « Il était une fois l'argile ». Alors, de quoi il en retourne ?
Eh oui. Eh bien, aujourd'hui, Thomas, Simon, je vais commencer cette chronique par une petite devinette.
Ouh là là !
Attention !
Avec un indice dans le titre, bien sûr. À votre avis, quel est le matériel, c'est-à-dire le type d'objet que l'on retrouve généralement le plus souvent sur un chantier de fouilles ?
Le matériel.
Est-ce que c'est un rapport avec le nom de la chronique ou vraiment pas ?
Si, c'est un gros rapport.
Alors je dirais le béton ? Non.
Non.
Le ciment ?
Le sable, peut-être ? Est-ce que c'est un truc qui sert à faire de la terre cuite ?
Tout à fait.
Ah, je me rapproche. Est-ce que ça commence par A ?
Oui.
Est-ce que ça termine par argile ?
Argile. C'est fait en argile, c'est fait en argile.
Des tablettes.
Mais tu l'as un peu dit en fait. La terre cuite.
Des poteries.
Et en fait, c'est la céramique.
La céramique. Bah,
voilà, les poteries, la céramique.
La céramique, évidemment.
La céramique, c'est de l'argile qui a subi une transformation physico-chimique. Donc, qui a été soit séchée, soit cuite. Et oui, je me souviendrai toujours du bonheur que j'avais ressenti lors de mon premier chantier en découvrant un minuscule morceau de céramique gallo-romaine. Elle n'avait rien de particulier, hormis le fait qu'elle était façonnée il y a de cela plusieurs siècles et qu'elle était donc un témoin d'un temps révolu. Ce qui est en soi assez émouvant. Mais l'émotion passée, c'est un deuxième fragment, puis un troisième, puis des dizaines et des centaines. Et au fur et à mesure, en exhumant ces tessons, l'émotion laisse la place à l'analyse scientifique. On est heureux de voir ces signes particuliers sur nos micros, sur nos micro-bouts de tessons, et d'identifier à quel type de style et de période ils ont appartenu. Et à force de faire des chantiers et de retirer strate par strate des kilos de céramique, beaucoup, dont moi y compris, se lassent de ce matériel, voire le dénigrent en le sortant du sol. On se dit « Oh non, encore un fragment de pot de chambre, encore un pot à mamie,
toujours
etc.
pareil,
etc. » Et on isole mécaniquement cet objet qui, pourtant au départ de notre expérience de fouilleur, nous faisait rêver. Aujourd'hui, Simon Thomas, je veux prononcer un mea culpa envers tous ces tessons. Et je souhaite recoller les pots cassés.
Oh !
Je vais redorer le blason de la céramique en vous expliquant en quoi c'est un matériel et une invention marquante pour l'histoire de l'humanité. Rien que ça.
Rien que ça. Le micro, Thomas, si jamais.
Oui, donc là, c'est du haut niveau. Voilà.
Notre histoire de haut niveau donc commence. Notre récit commence à une période de la préhistoire que l'on nomme le néolithique et qui a duré environ de moins 10 000 ans à 4500 avant notre ère. C'est à cette période que l'homme invente l'agriculture, l'élevage et devient sédentaire. Enfin, une partie de l'humanité, car la sédentarité a lieu petit à petit sur plusieurs siècles et certaines cultures conservent leur nomadisme. Il faut d'ailleurs toujours essayer de se détacher de notre vision évolutionniste en pensant que la sédentarité est le premier pas vers la civilisation. Beaucoup de cultures se développeront dans un univers de chasseurs-cueilleurs. La question que l'on peut se poser est pourquoi certains groupements humains inventent l'agriculture et l'élevage. Il y a une grande hypothèse, et plusieurs autres. La fonte des grands glaciers aux alentours de moins 10 000 ans avant notre ère. En effet, c'est grâce à ce réchauffement global que les troupeaux arrêtent de migrer et que de nouvelles espèces végétales se développent. Ainsi, plusieurs groupes humains installent de manière pérenne leur campement et commencent à cultiver et à apprivoiser les différents animaux qui sont aux alentours. Une région est particulièrement propice à l'agriculture, le Proche-Orient. Entre le Tigre et l'Euphrate, les hommes créent de tout premiers villages et apprennent à maîtriser les crues des deux fleuves pour cultiver l'orge et le blé. Ces hommes remarquent également que proche de l'eau, il y a cette terre, l'argile, qui est extrêmement malléable et qui durcit quand elle sèche, ce qui permet de faire absolument toutes les formes souhaitées. Alors, ils utilisent cette terre pour construire les maisons, pour compter le bétail et raconter des histoires, et bien sûr, pour façonner de la vaisselle, ce qui est beaucoup plus commode que la vaisselle en pierre. Vous conviendrez.
Bien sûr.
Qui n'a pas chez lui, bien sûr, des assiettes en terre cuite.
Le grand pot en granit, bien sûr. Voilà,
j'ai une fourchette en pierre.
Qui est dur à trimballer, voilà. L'argile, donc élaborée en céramique, permet également de conserver au sec les céréales produites à la belle saison. Et oui, une invention ne va pas sans l'autre. Toutefois, les toutes premières céramiques ont été inventées par des groupes de chasseurs-cueilleurs. Alors là aussi, on fait des grandes généralités, mais en fait, l'invention de la céramique, elle n'est pas forcément liée à la sédentarité. Elle peut aussi être liée aux chasseurs-cueilleurs. Bref, là aussi, il faut faire attention aux raccourcis. Alors, ça a l'air facile, dit comme ça, mais élaborer une céramique, ça prend du temps et demande beaucoup de savoir-faire pour maîtriser les différentes étapes. Il y a d'abord l'extraction de l'argile qu'il faut purifier en tamisant.
Un petit tuto,
en la lavant à grande eau, tout à fait, un petit tuto. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, une fois qu'on l'a lavé?
Faut la malaxer.
Tout à fait.
Oh, il est bon.
Il faut la retourner et puis la malaxer pour chasser les bulles d'air. Bravo Thomas. bien sûr, ensuite, on malaxe et on crée des pains d'argile qui seront ensuite façonnés.
Je tiens à dire que c'est fait sans triche. Hein.
Oui, parce que les gens pourraient croire qu'il a lu...
Il a vraiment improvisé.
Et puis viendra, une fois que les pièces sont façonnées, la dernière étape, la plus délicate.
La cuire.
Le séchage.
Le séchage et la cuisson. Bravo. La cuisson
nécessite
la bonne maîtrise du feu afin que la température atteigne les environs de 400 à 500 degrés Celsius. Pour le façonnage, donc au néolithique, on ne connaît pas encore le tour qui permettra d'avoir des formes harmonieuses des peaux. Les hommes du néolithique utilisent la technique du colombin, c'est-à-dire la création de petits boudins d'argile que l'on monte petit à petit pour créer son vase. Mmh. Bien sûr, on ne crée pas seulement des vases, mais aussi des figurines. C'est grâce à l'argile que l'on connaît les visages des premières divinités. D'ailleurs, beaucoup de mythes fondateurs associent la création de l'homme au façonnage de l'argile. Pour les Sumériens, par exemple, nous serions tous faits d'argile animée par un souffle divin. Bref, je pourrais continuer longtemps à promouvoir tous les bienfaits de l'argile. Hein. Vous pouvez l'utiliser sur votre peau, ça fait du bien, ça nettoie. Et en quoi l'argile est une magnifique invention ? Mais vous vous demandez peut-être quelles sont les céramiques néolithiques que l'on retrouve sur le territoire français. En France et plus largement, en Europe, la céramique se répand depuis le Proche-Orient avec différentes vagues et différentes formes sur plusieurs siècles. Il faut bien avoir à l'esprit que ces grandes inventions comme la céramique, l'élevage et l'agriculture se répandent lentement et avec différents foyers. C'est grâce aux différentes formes de céramique que les archéologues ont pu dater et classifier les cultures et les sites archéologiques du néolithique. Il y a ainsi par exemple la culture du cardial, du néolithique ancien, qui se caractérise par des céramiques décorées avec la tranche d'un petit coquillage qu'on nomme cardium. Cette culture du cardial est présente dans toute la Méditerranée, mais il existe également des cultures provenant aussi du Danube, comme le Rubanais, aux alentours de 5800 à 4600 avant Jésus-Christ, où les céramiques sont décorées avec des formes de rubans qu'on vient inciser directement dans l'argile. C'est ainsi que l'on identifie les cultures par région et par chronologie différentes. Et au passage, d'ailleurs, on remarque bien à quel point les populations anciennes échangeaient sur de longues distances. On est loin de l'idée de la tribu qui reste dans son coin et qui n'échange pas, qui ne marche pas. Au contraire, il y a beaucoup de circulation et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec les autres périodes, car nous verrons à quel point la céramique attique, la céramique grecque, était présente notamment en Gaule et même au-delà. Et donc, je continuerai mon apologie de la céramique pour ma prochaine chronique, où nous parlerons cette fois-ci de céramique et d'antiquité.
Oh là là, donc il y aura une suite.
Oh là là, wow. Partie 2.
Oh
partie
là deux. Là, on a hâte. Hein. En tout cas, merci beaucoup Théophile pour cette introduction.
Très intéressant, en plus, pour le coup, on a appris plein de trucs.
Tout à fait.
Et notamment, comment faire du coup de la céramique.
Comment faire de la céramique et surtout que les tribus ne restaient pas entre elles. Oui. Elles échangeaient quand même. Et donc, la première chose qu'elles ont échangé, visiblement, c'est la poterie. Quoi.
Avec aussi les coquillages, qui étaient un moyen d'échange, qui était connu.
Bah oui. Et ce que tu dis sur le fait qu'on a retrouvé des céramiques en France, M'étonne même pas parce que, avec l'expansion de du monde grec, comme on dit, ils ont apporté leur savoir-faire jusqu'au sud de la Méditerranée et au nord de la Méditerranée, notamment aux alentours de Marseille, j'imagine.
Et puis après, il y a aussi la route de l'étain qui va arriver à l'âge du bronze, parce que pour faire le bronze, il faut de l'étain, et l'étain, on le trouvait plutôt dans le nord de l'Europe, du coup. On savait qu'il y avait un axe. Voilà.
Alors que l'allumé, eh bien, on le trouvait. Voilà, c'est tout pour moi.
Allez,
tous les mardis soirs au Grand Rex, bien sûr. Voilà.
Non, mais écoutez, retrouvez-le tous les soirs aux rue Nationale.
Au Comedy Club.
Voilà, tout à fait.
Voilà, pardon, je vous ai totalement coupé.
Seulement 6,90 € par personne.
La minute. Bref,
nous allons nous écouter une petite pause musicale. Proposé par Théophile ce soir, c'est Unchained Melody. Je ne vous dis pas de quel film c'est tiré, vous allez très vite le reconnaître, mais c'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Alpa.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur la percée de l'histoire. 107.3 FM Le Mans, radioalpin.com, et nous venons d'entendre le fameux thème, j'ai envie de dire, de Ghost, évidemment, hein, proposé par Théophile ce soir. Oui, oui. Et donc, pourquoi ce choix de musique, Théophile ?
Eh bien, parce que c'est l'une des scènes les plus sensuelles du cinéma, avec Demi Moore qui recherche sa moitié, pour le jeu de mots. Non, Demi Moore et Patrick
Swayze.
Je l'avais
pas, mais
j'essaie de faire des blagues.
Non, mais elle est très bien.
Je me prépare.
Non, mais tu vois, c'est calé.
Franchement, elle était très bonne.
En fait, on est vraiment bas de niveau.
Ouais, là, t'étais sur un niveau stratosphérique. Bon. J'aime beaucoup.
Bravo. Bref, et donc, du coup, elle est céramiste, donc elle fait du tour
tout à fait.
De potière. Et,
voilà.
Et Demi Moore et Patrick Swayze arrive. Et voilà, c'est une scène sensuelle,
érotique, etc. Et comme je disais hors antenne, ça a été parodié par un gars et une fille. qui là,
pas la même ambiance.
Alexandra Lamy pétrit le pain, ou enfin, en fait une pâte. Et justement, la blague, c'est que donc, la musique s'enchaîne, il commence à goûter la pâte, tout ça, machin. Bon, bref. Et puis Jean se relève et puis il dit « Mais c'est quoi ça, en fait ?» Et puis en fait, le dénouement, c'est juste « Ils font ce qu'ils ont à faire. » Je n'en dirai pas plus.
Clin d'œil, clin d'œil.
Sans transition aucune, ça va être l'heure de ma petite chronique. Très rapidement, parce qu'il est déjà 43 malheureusement.
Oh là là.
Et oui, on n'a qu'une heure. Mais
ça file.
C'est comme ça. Pour vous parler du poisson d'avril.
Ah.
Mais au fait, c'est quoi le poisson d'avril ?
C'est quoi le poisson d'avril ?
Messieurs, si vous devez expliquer le poisson d'avril, qu'est-ce qu'on fait le 1er avril en fait ?
Eh bien, le 1er avril, on colle des poissons dans le dos des gens quand c'est marrant. D'ailleurs, je l'ai fait à ma mère hier.
Trop cool. Est-ce qu'elle a rigolé ?
Oui. Enfin, pas vraiment parce qu'elle est partie dans la rue avec un poisson dans le dos, mais donc c'était pas très drôle. Je me suis fait un peu gueuler.
Oui.
Mais sinon, c'est ça et des blagues.
Voilà.
Faire croire des choses à des gens.
Donc finalement, elle t'a enfermé pendant 3 jours dans le placard.
Oui.
Sachant que c'était hier.
Bon, c'est ça.
Bref.
Mais, et oui. Donc là, je suis sorti illégalement là.
Tu as tout à fait raison. Deux choses. Coller des poissons dans le dos et faire des blagues. Eh oui, dire des choses fausses. Comme par exemple, « Oh, je vais arrêter ceci alors qu'on ne va pas du tout l'arrêter. » Ou « Oh, j'arrête de croire en ça alors qu'en fait, on ne va pas du tout faire. » Bref, tout ça pour dire que on fait les blagues les plus grosses sont les meilleures, finalement. Comme vous vous souvenez peut-être en 2016-2017, je ne me rappelle plus, où Carambar avait décidé d'arrêter les blagues dans leur paquet. Et en fait, c'était un poisson d'avril, figurez-vous. Ils avaient fait un décompte et tout le monde est là. Mon Dieu, ils vont arrêter les blagues. Mais non, en fait, ils n'ont pas arrêté.
Ils auraient dû.
Ils auraient dû. Après, on dit ça, on dit rien. Bref, donc vous avez bien résumé ce que c'était le poisson d'avril, mais d'où ça vient, en fait ? C'est ça la grande question que nous, on se pose ce soir. C'est d'où ça vient et jusqu'à quand ça remonte ? Et à votre avis, petit quiz, depuis quand l'expression « poisson d'avril » existe ? C'est le juste prix.
Est-ce que c'est à l'Antiquité ?
Non, ça va être plus récent que ça.
Ouais, parce qu'eux, ils ont toujours
beaucoup
tout inventé.
Plus récent.
C'est un lien avec les chrétiens ou pas du tout ?
Pas encore. Tu as sauté une étape.
Ah, il est trop rapide. On va déjà élargir. Époque médiévale ?
Fin de l'époque médiévale.
Fin de l'époque médiévale. On arrive dans le moderne un peu.
On arrive dans le moderne un peu, oui. On n'est pas loin.
On n'est pas loin.
Déjà dit un siècle, pour commencer.
Le 16e.
C'est moi.
Le 15e.
Oui.
Donc dans les années 1400 et des bananes.
Exactement.
D'accord.
Guerre de 100 ans, du coup
Oui, on est dedans.
Ouais. 1453.
C'est plus.
1457.
C'est plus.
1462.
C'est plus.
1465.
80. C'est plus.
67.
C'est moi.
66. 1466,
oui,
s'il y a une date précise.
Okay. Donc du coup, c'est après la guerre de 100 ans, qui s'arrête en 1453, officiellement. Et donc oui, la première fois qu'on utilise le terme « poisson d'avril », c'est donc dans « Le doctrinal du temps », c'est un livre, écrit par Pierre Michaud, daté de 1466. Mais alors là, messieurs, en fait, poisson d'avril, à cette époque-là, ça désigne un entremetteur, un intermédiaire ou un jeune garçon chargé de porter les lettres d'amour à son maître.
Ah oui, donc rien à voir.
Rien à voir avec ce qu'on dit maintenant. Et d'ailleurs, l'emploi que je viens de vous dire est reconfirmé dans le livre de la diablerie, alors D-E-A-B-L-E-R-I-E, de Eloi Emmerval, daté de 1507-1508, voilà, de ces années-là. Et son emploi est désigné une tromperie, une mystification traditionnelle du 1er avril. Donc là, on commence à se rapprocher un petit peu de notre version que nous avons aujourd'hui. Et donc, la tromperie en tant que telle est vraiment attestée qu'au XVIIe siècle. Ah oui. Donc, vous voyez, il va y avoir vraiment un glissement de 200 ans entre l'entremetteur qui apporte les lettres d'amour à son maître et ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il faudra vraiment, véritablement attendre 1718, l'encyclopédie, le dictionnaire pardon, de l'Académie française, qui dit « Obliger quelqu'un à faire quelques démarches inutiles pour avoir lieu de se moquer de lui ». Voilà. C'est ça la définition pour poisson d'avril.
C'est du bizutage, en fait. Ouais.
C'est exactement ça. Et donc, pour ce qui s'agit des origines, comme d'habitude, vous serez à peine étonné, mais ça reste obscur, évidemment. La tradition festive de personnes qui sont l'objet de farces ou de satires existe dans plusieurs cultures, finalement, dès l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Les fêtes religieuses romaines, des hilaria, qu'on appelait, qui donnera en français le mot hilar, bien évidemment, rire, mais rire à gorge déployée.
De bon cœur.
Voilà, de bon cœur, célébré le 25 mars. Ou alors la holi, fête des couleurs hindouistes. Ou encore la Siddha Bedar, la fête, une fête persane. Ou encore le Purim, une fête juive. Ou encore la fête des fous en Europe. Donc, on voit bien que se moquer des gens, eh ben, c'est intemporel.
Il a fallu... Finalement.
Voilà. Finalement, on a toujours trouvé le prétexte ou le moment...
Pour se foutre la gueule des gens.
Foutre de ce voisin un peu trop premier degré, qui existe depuis le départ. Et qu'on sait que si on lui dit qu'il y a des extraterrestres dans le jardin, il va accourir pour voir ce qui se passe. Et donc, ça se passe dès l'Antiquité.
Mais il y a beaucoup d'expressions comme ça qu'on varie avec le temps. Un truc qui voulait dire quelque chose à une époque et qui finalement ne veut plus rien dire, enfin, ne veut plus du tout dire ça.
Oui.
J'ai pas d'exemple, mais il y en a plein. Il y en a plein. Oui. Beaucoup d'expressions françaises ont varié comme ça.
Bien sûr. Évidemment, tu as tout à fait raison.
Je sais plus.
Et d'ailleurs, je rejoins ce que disait Théophile tout à l'heure et je m'arrêterai là. Une première explication relie le poisson d'avril à la Pâque, donc une fête traditionnelle chrétienne qu'on vient de fêter il y a deux jours, hasard du calendrier, qui marque la fin du jeûne du carême. Lorsque Pâques arrive, le carême, chez les chrétiens, ça se finit. Le carême, ça dure combien de temps, messieurs? Est-ce que vous le savez?
40 jours.
Bravo, 40 jours.
Non, mais Théophile a dit...
Mais voilà, tout à fait. Donc là, une fois que Pâques arrive, c'est vraiment la fin. Donc, le poisson prend une place alimentaire très importante pendant le carême, parce qu'on n'a pas le droit à la viande, on n'a pas le droit aux plats très gras, donc on doit faire attention à son régime alimentaire, et notamment avoir des aliments, ce qu'on appelle maigres, des jours maigres, presque tous les jours, et le poisson en fait partie. De plus, l'inquitus,
à tes souhaits,
chrétien, un symbole graphique représentant un poisson, est souvent interprété comme un acronyme du nom de Jésus, finalement, avec les différentes traductions du grec au latin. En fait, on pense que, et d'ailleurs aujourd'hui c'est encore attesté, si jamais vous voyez, notamment sur les voitures aujourd'hui, si vous voyez une personne avec une voiture ayant un petit poisson derrière, ben généralement c'est un catholique. Pourquoi ? Parce qu'on on associe en fait ce dessin à, par extension, le nom de Jésus. Et pourquoi un poisson, vous me direz ?
Bah oui.
Parce que ça fait référence à la pêche miraculeuse qu'il y a dans le Nouveau Testament. Et c'est très important ce passage-là. Non, je ne vous ferai pas un cours de théologie ici, bien évidemment, ce n'est pas le lieu. Mais nous avons... dans la Bible et dans l'Ancien Testament, un passage très fameux qui s'appelle la pêche miraculeuse, où en fait Jésus monte sur une barque et puis en fait en profite pour faire une parabole pour dire finalement « j'attrape les poissons comme les pêcheurs ». C'est un peu ça qu'il faut retenir. Et donc, ce symbole-là a été, au départ de l'Église, un moyen de se reconnaître. dans un contexte où les chrétiens n'étaient sans pas très appréciés dire, au départ. Ouais.
Dans les catacombes.
Et donc, il ne fallait pas dire « oui, bonjour, je suis catholique », non, non, ou « je suis chrétien ». Fallait pas trop le dire et crier sur tous les toits. Donc, on faisait des petits dessins, histoire de dire. Bref. Et donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, on relie le poisson d'avril à une fête chrétienne, finalement.
Avec Pâques.
Mmh. Et voilà. Et par extension, la fête de Pâques. Tout à fait.
Que ictus, c'est le poisson en latin aussi.
Oui, voilà. Hein, c'est des traductions, mais tu as tout à fait raison, Théophile. C'est une idée de poisson, tout simplement.
Ceci explique cela.
Ceci explique cela. Et voilà pour le poisson d'avril, d'où ça vient.
Et bah merci beaucoup pour cet éclairage exceptionnel.
Merci.
Je ne savais point, je me coucherai moins bête ce soir.
Voilà, tout à fait. Eh bien, écoutez, je vois qu'il est 20h52. Nous rendons l'antenne dans 7 minutes. Eh bien, nous n'allons pas faire de pause musicale, exceptionnellement. Truc de dingue. Parce que je ne voudrais pas rater tout de même le grand quiz.
Oh là là, oh là là.
Le grand et l'immense quiz
la gueule
que
du quiz,
Simon
hein.
a quand même bossé pendant 4 jours.
Ça, oui, c'est vrai.
Vous vous souvenez de sa maman qui l'a enfermé dans la cave.
J'en avais 3 pour travailler.
Exactement. Et donc, tu nous as préparé un petit quiz.
Oui, mesdames et messieurs, c'est un quiz pas si facile, mais pas si dur non plus. Voilà.
Donc, il est moyen.
Il est moyen. Non, ben, ça dépend. En fait, c'est un quiz sur des infos historiques un peu, voilà, un peu marrantes, mais quoique. Et on va démarrer avec la première. En fait, c'est des petites questions dont vous devez répondre. Enfin, essayer de trouver un peu le juste prix, mais version plus large. Le fils d'Abraham Lincoln y était présent 3 fois. Mais de quoi on parle ? Et alors là, bon courage, vous avez 1 heure.
Ah oui, d'accord. C'est même pas qui veut gagner des millions,
non,
on a 4 propositions.
Non, c'est qui veut gagner 5
là,
euros,
c'est...
et c'est surtout plus dur.
Alors.
Je le redis, le fils d'Abraham Lincoln y était présent 3 fois, mais de quoi ?
Est-ce qu'il a été 3 fois à un enterrement ?
Non, mais l'idée de la mort, elle est pas loin.
Est-ce qu'il a assisté à 3 assassinats ?
C'est exactement ça.
C'est vrai.
Bravo. Oui. Bravo, bah 1 point. Bravo, félicitations Thomas. C'est
con, j'imagine.
J'ai même pas de petit son là pour mettre.
Ah oui. Bah moi non plus. Mais je vais essayer de le trouver pendant qu'on parle.
Mais tu allais dire.
Non, mais c'est pas grave. J'imagine que le dernier assassinat c'est celui de son père.
Ouais. Le dernier non, mais le premier oui.
Ah merde.
Oui oui, ouais. Tout à fait. Ah. Il a démarré fort avec le premier. C'était donc celui de son père. Il était présent pendant cet assassinat là. Et il a enchaîné ensuite avec celui de James Garfield, 20e président des États-Unis. Et celui de William McKinley, 25e président des États-Unis. À chaque fois, il se faisait inviter, donc faut croire que fallait peut-être pas l'inviter parce que c'était pas bon signe.
Trois fois sur un lieu de meurtre, bon, voilà.
Oui,
vous
c'est vrai qu'il y a peut-être des questions.
Et là, tout de suite, applaudissements.
Non, halluciné. Bravo, bravo pour ce premier point pour Thomas. Deuxième question. De quoi est mort le roi birman ? C'est assez connu, ça. Et ça reste un peu une légende, je pense, parce que j'ai pas vraiment trouvé de source très précise. De quoi est mort le roi birman ? Nenda Bayin, je sais pas comment on le dit.
Il est mort en faisant l'amour, non ?
Non, mais c'est un peu dans le délire. Évidemment, vous doutez bien que c'est une mort un petit peu rigolote.
C'est le cas
de le dire, peut-être.
Il est mort aux toilettes.
Non, c'est pas aux toilettes. Ça, il y a eu un roi aussi qui est mort de ça. Il a poussé trop fort.
Genre jeton.
Rupture d'un aneurysme. Les veines compétées dans le cerveau.
Yes.
Toujours un plaisir.
Il est mort.
Et l'amour, c'était Félix Faure.
Ah, oui.
Président qui s'est fait. J'en n'en dirai pas plus.
Il voulait être César.
Il a fini Pompée.
Clémenceau.
Voilà. Pas d'idée ?
Non, pas d'idée.
Genre. J'ai dit que c'était un peu dans le domaine justement du rigolo.
Oui. Bon, du rigolo.
C'est un gros.
Il est mort de rire.
Bah voilà. Il est mort de rire, tout simplement.
Possible.
En 1599, il est. Alors après, je prends ça avec des grosses guillemets parce que c'est redit dans beaucoup de manuels d'histoire, etc. Mais je pense que. Enfin, il n'y a pas de source attestée qui dit il est mort de rire. Mais il serait mort de rire en entendant de la bouche d'un marchand italien que la République de Venise était un état libre qui ne possédait pas droit. Il a fait et il serait mort. Troisième.
Attention, le public en liesse.
Oh, le public exceptionnel. Merci, vous êtes nombreux ce soir. Pourquoi le Japon et le Monténégro sont restés en guerre pendant 101 ans quand même ?
Parce qu'ils ont. Ils ont oublié de signer le traité.
C'est exactement ça. Ils ont juste oublié de signer la paix. Voilà, c'était pendant la guerre russo-japonaise en 1904. Et ils ont complètement zappé. Donc, ils ont signé le traité de paix en 2006. Donc, voilà, ça leur a fait 101 ans de guerre.
Public en liesse ?
Oh, le public, toujours. Allez, deux dernières questions. La première. La deuxième, pardon. C'est un peu compliqué. Quelle est la particularité du drapeau de l'Alaska ? qu'est-ce qui fait, surtout sur la création, qu'est-ce qui est particulier?
Elle triche.
Non, je triche même pas. Je
allez,
je
indice, indice, et vous pouvez jouer chez vous. Quel âge avait le créateur de ce drapeau de l'Alaska?
Oh, tu vas pas dire.
10 ans?
C'est plus.
20 ans.
C'est moins.
15 piges.
C'est moins.
12 ans.
C'est plus.
14.
13.
C'est moins. C'est 13 ans, bravo, Théopi. Ouais,
applaudissements.
Applaudissements du public. Voilà, oui, ça a été fait par un enfant de 13 ans qui, en fait, parce qu'ils savaient pas, ils sont arrivés, ils ont dit bon, bah, il nous faut un drapeau. Il y a eu un concours en 1927 qui a été organisé. Benny Benson, de son prénom et de son nom, 13 ans, il propose un dessin. Il dit bah, regardez, moi j'ai fait ça. Et ils disent bah, bingo, ouais, c'est super ton dessin. C'est en gros, c'est, on retrouve donc la grande ours et l'étoile polaire sur un milieu, un fond bleu foncé. L'étoile polaire, pourquoi? Ça symbolise en fait le futur état de l'Alaska qui est situé le plus au nord.
Bien
et
sûr.
La grande ours, ça symbolise la force selon voilà, le dessinateur. Dernière question et on termine là-dessus. Pourquoi se sont fait la guerre, et alors ça c'est assez fou, pourquoi se sont fait la guerre la France et le Mexique entre 1838 et 1839? Ils se sont fait la guerre les deux pays, mais pourquoi?
Pendant un an.
Pendant un an, à peu près. Mexique versus France en 1838-1839. Et pour quel motif? Sachant que le Mexique était nouvellement arrivé, enfin c'était pas créé depuis très très longtemps.
Ouais, une nouvelle nation.
Mais ils n'ont pas tardé, ils ont pas tardé à se mettre sur la gueule.
Une histoire avec quelques mètres carrés sur le territoire?
Non, c'est pas une histoire de territoire.
Non, une histoire de relations?
Alors oui, évidemment, c'est une histoire de relations, c'est un truc tout con.
Ah, de troupeaux?
Non, mais c'est un peu dans l'idée. Enfin, pas dans le, dans le sens troupeau, mais c'est un peu un délire comme ça, un petit truc qui peut partir très loin. C'est pas facile.
Il y a des Mexicains qui sont venus à Paris, ils ont foutu le bordel.
Alors, indice, c'est à cause d'une spécialité un peu française. Enfin.
Les grenouilles?
Non.
Les escargots?
Non. Dans le milieu plutôt du petit déjeuner.
Les croissants?
On va dire ça, ouais. En gros, c'est pour une histoire de pâtisserie. À Mexico, il y avait une pâtisserie qui était tenue par un Français et elle a été saccagée par des soldats, en fait, cette pâtisserie. Ils en ont profité aussi pour récupérer un peu dans leur poche. Bah. Bref, forcément, pas content, le mec.
On est là.
Tu vois, logique, on arrive, on saccage ton truc. Il est allé se plaindre à Louis-Philippe. Le roi, il a dit pas content, machin. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ah ouais, on veut me faire, moi. Ah ouais. Et ben, il est arrivé. Grosse baston pendant un an avec le Mexique. Il a détruit le port de Veracruz. En vrai, je simplifie, mais il y a une vraie histoire là-dessus. Vraiment, je l'ai vulgarisé à mort, mais il y a vraiment une vraie info, une vraie histoire qui est liée à des pâtisseries de guerre entre le Mexique et la France pendant un an. Je vous invite à aller voir, vous tapez guerre, pâtisserie, France-Mexique. Il y a vraiment un tas de trucs sur cette histoire, c'est assez bluffant. Voilà, je ne savais pas du tout, c'est pas connu.
Louis-Philippe, il est arrivé, puis il a fait « Tu me manques de respect. »«
Tu me manques de respect à mes croissants ? Ah, tu vas voir, toi. Je vais te taper la gueule. » Et voilà, il s'est parti en guerre. Mais vraiment en guerre, en plus. Vraiment, c'est parti loin, quoi.
Je n'aime pas tes chocolatines. Pour lancer une autre guerre.
Allez, autre baston.
Ouais, rendez-vous compte.
C'est parti vraiment loin, cette baston. Voilà.
Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Simon.
Avec plaisir.
Pour ce quiz d'anecdotes insolites.
Ouais, je vais rattraper la prochaine fois.
Et on est pile à l'heure. C'est incroyable.
On peut finir avec ma petite découverte musicale ou pas?
Vas-y, oui. Qu'est-ce que tu veux?
Ah bah non,
oui.
Parce que oui, 21h, il y a une émission qui suit.
Oui, non, mais écoute, là, je pense qu'on a le temps.
Bah, je sais pas. Non, mais c'était Atom, un groupe de Morlaix, situé non loin de la Bretagne, et j'aurais peut-être la chance d'aller les voir au Festival Mythos. Et c'est très cool ce qu'ils font, c'est l'électro, et je pense qu'ils ont un grand avenir dans le milieu. Et de toute façon, ils ont déjà beaucoup de gens qui les écoutent, donc c'est Atom, A-T-O-E-M.
Eh ben, écoutez, on va s'écouter ça immédiatement, après les pubs, bien sûr, parce que quand même, on n'est pas là pour vendre des pubs. Donc, pour vous décrire, ce sont des pubs pour des serviettes hygiéniques.
Ah oui, tu parles des pubs
YouTube. Oui, des pubs de YouTube, oui.
Mais un groupe hyper sympa. En plus, c'est deux jeunes qui sont très, très chauds.
Trop
très
cool.
Chauds et qui font plein de nouveaux sons, un peu, je ne saurais même pas décrire d'ailleurs vraiment leur style, mais c'est sympa et c'est à découvrir tout de suite sur Radio Alpa.
Et ben voilà, tu as tout à fait raison. On écoute ça immédiatement, c'est tout de suite, c'est maintenant.
Merci encore, bonne soirée.
Oui, de toute façon, on se dit au revoir après.
Ah, ça marche, pardon.
T'inquiète.
We'll be right back.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Nous sommes de nouveau sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Et c'est déjà la fin de notre émission.
Oh.
Et oui, nous avons écouté Sinking Ocean de...
Wow.
Atom,
bah c'est Atom en fait, mais c'est vrai que ça, bah je crois, mais je leur demanderai et ça s'écrit bah oui. Atom.
Parce que tu vas les voir en concert.
Ouais, en concert et peut-être si j'ai de la chance en interview.
Eh ben, trop
s'ils
cool.
sont disponibles.
Eh ben, on espère.
Je vous tiendrai au jus.
Exactement. Eh bien, écoutez messieurs, merci beaucoup.
Merci à toi,
ici.
Thomas.
Bonne soirée, merci.
Merci
toi.
À toi, Théophile aussi pour merci cette chronique fort passionnante sur la céramique. J'ai appris plein de trucs. Je
tout
le
à fait. On a appris plein de trucs. Et puis écoutez, nous, on vous laisse heureux et contents de notre travail. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Et avec le temps qui va revenir, j'espère, avec un peu plus de beau temps. En tout cas, à la fin de la semaine, il fait chaud. Faites attention, 20 degrés. Hein.
Ouais.
Donc, eh bien, écoutez, bonne semaine à vous. Et puis on se dit à la prochaine, tout simplement.
Salut.
Allez.
Ciao, ciao, ciao.
Au revoir.
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation !
Entre ici, Jean Moulin.
Avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.